Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, t'as dit tout à l'heure que ta fille avait une mutation, avait une maladie voilà. génétique, mais c'est vraiment genre une très rare, c'est ça?
Ouais.
Tu disais dans le mail que moins de 200 cas connus dans le monde, donc c'est vraiment spécifique, quoi.
Ouais, c'est très, très spécifique. Avec toutes ces questions qui se posaient, il commençait un peu à avoir aussi des... Je dirais pas des tensions, mais dire des interrogations aussi, du genre, est-ce que c'est un truc héréditaire? Est-ce que, entre guillemets, c'est ta faute? Est-ce que c'est ma faute? Il y avait peut-être un petit sentiment de culpabilité qui poussait. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on vraiment on fait le maximum pour elle? Est-ce qu'on on peut pas l'aider mieux? Est-ce que si? Est-ce que ça?
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Sony, bienvenue dans l'Histoire de Daron, salut.
Salut, merci à toi de m'accueillir.
Bah avec grand plaisir. Merci de m'avoir envoyé un mail. Et tu me dis qu'en fait, ça fait 4-5 ans que tu réfléchis à m'envoyer un mail sans trop oser. Qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas et qu'est-ce qui faisait qu'avant t'hésitais?
Je pense que c'est un long cheminement. Au tout début, j'avais beaucoup d'incertitudes en fait par rapport à ma fille. Donc j'annonce tout de suite que voilà, ma fille a une maladie génétique très rare. Et en fait, au tout début où je pensais, où j'avais fait ce premier brouillon d'email que je voulais t'envoyer, on ne savait pas en fait c'était quoi sa maladie. Donc je me souviens qu'il y avait eu un épisode où il y avait quelqu'un qui était venu déjà, qui avait une fille un peu spéciale. Et ça m'avait touché, ça me parlait, on va dire, voilà. Mm. Mais je ne pensais pas que j'avais forcément plus de choses à apporter par rapport à cet épisode, on va dire, ou en tout cas je savais pas trop. Et depuis on a su c'est quoi sa maladie plus précisément. Il y a pas mal de données, de recherches qui sont faites, et les choses s'accélèrent de plus en plus en fait. Puis je me suis dit pourquoi pas en reparler, surtout que ces derniers temps j'avais fait aussi une bonne session de rattrapage de tes podcasts. Et puis je me suis dit quand même, ce serait dommage de pas participer un jour quand même.
Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie, il y a 4-5 ans, alors que tu savais pas trop, tu avais envie de venir déposer ça, c'est ça, de venir en parler? J'imagine que c'était pas très simple pour toi à vivre. Ta fille a 8 ans, c'est ça? Donc,
Maintenant, elle a 8 ans.
Ouais.
Ouais. Donc là, elle avait 3-4 ans. Et on était dans le flou par rapport à l'avenir pour elle. Maintenant, on sait de quoi l'avenir nous réserve, mais on sait qu'il y a des hauts, il y aura des hauts, il y aura des bas. Quoi. Mais bon, voilà, on sait de quoi, à quoi s'attendre.
Ok. Sonny, tu vis en Chine ?
Ouais.
Tu vis en Chine depuis longtemps ?
Eh ben, ça fait 8 ans là qu'on était revenu en Chine. On avait déjà passé un an et demi ensemble en Chine. Donc on a fait un an et demi en Chine, un an et demi en France, et puis après on est revenu en Chine. Ouais, là, plus ou moins définitivement. On verra.
Ça venait d'où l'envie de s'expatrier en Chine ?
Alors c'est assez simple. Ma femme est chinoise. Voilà.
Ok.
Donc en fait. Ouais, on s'est rencontrés à l'université. On n'était pas dans les mêmes années. Moi, j'étais en dernière année, elle était en première année ou quelque chose du genre.
T'as fait tes études en France, enfin, vous avez fait vos études en
voilà,
France,
c'est ça.
Okay.
Voilà, d'accord. On s'est rencontrés à l'université à Belfort. Et quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un boulot dans le coin. Et puis, on a continué à être ensemble le temps qu'elle finisse les siennes. Et puis une fois qu'elle a fini ses études, on s'est dit elle avait envie de rentrer un peu en Chine. Et puis j'ai dit vas-y, banco, on y va.
Ok. Et donc t'as deux filles ?
Voilà, maintenant j'ai deux filles, ouais.
Donc ta première fille a 8 ans et demi, c'est ça ?
Elle va avoir 9 ans.
Elle va avoir 9 ans ?
Dans 14 jours. Elle est née à la Saint-Valentin, en fait.
Ouais. La classe. Et ta deuxième a 6 ans, c'est ça ?
Elle a 6 ans.
Ouais.
Ouais.
Et elle est née en Chine pour le coup, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc la première est née en France, à Metz, et la deuxième en Chine, à Shanghai. Expériences complètement différentes.
Oui, j'allais te dire, j'imagine à quel point ça devait être pas du tout la même ambiance, quoi.
C'est différent. Je pense qu'en plus, en Chine, on n'a pas pris le parcours traditionnel.
Ok.
Juste pour expliquer un peu comment ça se passe en Chine, même sans vraiment l'avoir vécu moi-même, du coup. Disons qu'il y a des choses qui sont différentes, comme par exemple qu'en Chine, on ne dit pas le sexe de l'enfant. Pendant les échographies, ils ne vont pas te le communiquer. Principalement, je pense que c'était pour éviter des problèmes d'avortement, pour éviter d'avoir des filles parce qu'il y avait une préférence envers les garçons, etc.
Historiquement, c'est toujours le cas aujourd'hui ou...
Franchement, je pense pas. Je pense pas.
Okay.
Je pense que ça fait partie du passé. Mais ils ont gardé cette habitude de pas dire le sexe. Après, il y a aussi tout l'encadrement qui est assez différent. Et au moment de la délivrance aussi, il y a un truc qui se fait peut-être aussi dans d'autres pays en Asie. Ils appellent ça la baby moon, où en fait la maman elle est dans une institution spéciale, et par exemple dans les très bons hôpitaux aussi ils ont des services spécialisés où la maman elle est chouchoutée pendant un mois en fait après la naissance, et avec le bébé etc, il y a vraiment elle est chouchoutée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour l'aider avec l'enfant et puis qui s'occupent d'elle etc, et éventuellement aussi les parents qui sont là pour aider. Et puis c'était aussi un peu plus compliqué en Chine à ce moment-là encore d'avoir des enfants tu veux qu'ils soient aussi étrangers. C'est-à-dire que si ton enfant il est né dans un hôpital chinois, par défaut il est chinois. Et c'est plus compliqué après d'obtenir une nationalité différente, française par exemple. Voilà. Donc
ou d'avoir les deux pour le coup, la double nationalité. Même la double nationalité c'est complexe. Okay.
En sachant que la Chine ne reconnaît pas les doubles nationalités. Enfin, ou le triple, ou n'importe.
C'est chinois ou rien.
C'est ça. Il y a une certaine tolérance jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire que les enfants peuvent avoir plusieurs nationalités, mais à 18 ans, ils devront faire un choix.
Ok.
Et du coup, nous, on n'a pas choisi l'hôpital public. Il y a un truc que j'en repensais aussi, c'est que dans les hôpitaux aussi en Chine, ils font très facilement, ils vont aller plutôt vers la voie de
la césarienne.
La césarienne, voilà.
Ouais.
Ouais. Et du coup, c'était pas forcément un truc qui tentait ma femme. Je peux comprendre. Et bah, du coup, on a fait le choix d'aller dans un hôpital américain. Donc, c'était un hôpital sino-américain à Shanghai, qui nous a coûté pas mal de nos économies, mais qui, je dois avouer, quand même, était vraiment au niveau de qualité. Mmh. Aussi, des soins, propreté, etc., c'était vraiment top.
Ça nous a coûté combien, l'accouchement, pour avoir une idée? 15 000 $, je dirais.
Ouais, un peu moins.
Ok.
Voilà.
Ouais, toujours en tête entre 10 et 15 000 $.
Voilà, c'est ça. On n'a pas pris toutes les options, et puis ouais, c'est un peu ça, à peu près ça. On n'a pas fait la baby moon aussi, parce que là, ça aurait été plus que 15 000 $. Mm. Mais ouais, on a pris ça, et puis bah, par voie basse, accouchement par voie basse, qui s'est bien passé. Il y a eu un déclenchement quand même. Je sais pas, apparemment c'est récurrent, parce que déjà pour la première, il y a eu un déclenchement. Même elle avait perdu les os et on a été obligé de déclencher.
Ouais.
Mais voilà, ça s'est bien passé. Dans une pièce où il y a la chambre, l'accouchement s'est passé directement dans la chambre avec le médecin qui est venu en pleine nuit, je crois. Et c'était à minuit, je crois. On a fait l'accouchement et puis voilà, c'était bien.
Ok. D'où vient ton désir de paternité, Sony?
Waouh! C'est une bonne question. Je crois pas que j'avais le désir de paternité, en fait.
Ok.
Je pense qu'à un moment de ma vie, avant que je sois avec ma femme actuelle, etc., j'avais pas vraiment envie d'avoir d'enfant. J'avais pas envie de me marier. J'avais pas envie d'avoir d'enfant. J'étais un peu déjà dans l'humeur du temps, on va dire, où on se dit ok, le monde s'effondre, la surpopulation, je voyais pas trop, voilà, le
selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment je pouvais amener une vie en plus dans ce monde où j'avais l'impression qu'on s'effondre, on va dire. Mais après avoir rencontré ma femme, j'avoue que j'ai changé. Je pense que rencontrer une femme de plus chinoise, j'ai eu pas mal de chocs, on va dire, culturels.
Culturels, ouais.
Ouais. Qui m'ont fait changer ma vision du monde. Et en plus de l'aimer, etc., bah, au moment, oui, j'ai eu quand même envie d'avoir des enfants.
C'est quoi les chocs culturels dont tu parles? Peut-être t'as quelques exemples?
Bah, le premier choc culturel quand t'es un bon français, un bon franco-français et que t'arrives en Chine, par exemple, c'est que l'étiquette sociale est complètement différente. Donc quand t'arrives dans un lieu, quand t'es français, tu vas vouloir dire bonjour à tout le monde, éventuellement faire la bise à tout le monde. Non, on fait pas ça en Chine. Tu dis pas bonjour à tout le monde, c'est pas grave, c'est normal. Quand tu pars de la pièce, t'as pas besoin de dire au revoir aussi. Donc moi, personnellement, c'était un peu, on va dire, protocolaire. Ça m'a fait bizarre d'arriver, même avec des gens de sa famille, bah, ils disaient pas forcément bonjour. Et moi, j'avais envie d'aller dire bonjour, ça va, je m'appelle machin, mais Non, les gens, ils passaient et ils disaient pas grand chose. Ou... Et ils partaient, ils disaient rien. Et ça, waouh, ça... L'étiquette sociale est vraiment très différente, en fait. Ouais. Et tout ce qu'on a en France, faire la bise, par exemple, etc., bah maintenant, en fait, ça me manque pas, en fait. Mm. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est bien, en fait, bah, de pas trop se prendre la tête à se dire au revoir ou quoi que ce soit. Ou forcément serrer la main. Je trouve, ok, salut, c'est bien. Surtout, en plus, à l'ère d'Internet, où on communique un peu à n'importe quelle heure, si à chaque fois il faut sortir « salut, ça va », etc., ça devient un peu lourdingue.
D'accord. Donc tout à l'heure, quand on a terminé la conversation, je coupe comme ça et je me casse, ouais. Quoi, c'est ça, ça.
C'est ça.
Pour être bien dans le truc. Ok. Et sinon, il y a eu d'autres choses par rapport à l'idée d'avoir des enfants que ta femme t'a... Je sais pas, t'as peut-être inculqué ou t'as peut-être apprise d'une manière ou d'une autre.
C'est une bonne question. Pas vraiment, je dirais.
Ok.
Pas vraiment.
Ok, ok.
Ouais.
Et donc, en gros, l'idée, c'est que une fois que t'as rencontré ta femme, t'as un peu changé de d'avis sur l'idée de la paternité.
Sur plein de choses. Sur le mariage, par exemple.
Ouais.
Quand tu fréquentes une étrangère qui doit avoir un titre de séjour, etc., bah, tu te dis qu'en fait, le mariage, c'est bien. En fait, ça peut sécuriser un peu plus ta présence, en fait, ou ta présence.
Mm.
Donc, le mariage, c'était un peu plus que... J'avais un peu plus d'arguments pour me marier, on va dire.
Ok.
Ouais.
Il y avait peut-être une utilité derrière que tu voyais peut-être pas forcément auparavant, quoi.
Voilà.
J'entends. Et est-ce que tu te... Comment ça s'est passé, en fait, comment dire, l'idée d'avoir votre premier enfant? Par rapport à toi qui voulais pas d'enfant, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des étapes?
Ouais, stressé. Je pense qu'on était stressés tous les deux. On n'était pas... Je pense que ce soit pour la première ou la deuxième, on n'était pas comme beaucoup de gens à sauter de joie. Je pense qu'on était... on est plus réaliste, on va dire, sur ce côté-là. Et on s'est dit, ah ouais, ok. Ça va être chaud. Les choses changent. il faut changer. Enfin, il va falloir se préparer. Il y aura une bouche de plus à nourrir. Ça va être différent, la vie. Je pense qu'on s'est dit un peu ça.
Et derrière, et en fait, la bouche de plus à nourrir, il y a le côté argent aussi, c'est ça qui,
il, bah, fallait... il y avait aussi ça, ouais. Ouais. Mmh. Ça en fait partie, je pense. Ouais. Mmh. Et pour la première, en fait, on était en Chine quand elle est tombée enceinte. Et en fait, on a décidé de revenir en France. On en a discuté avec ses parents, etc. Et ils se disaient que, voilà, par rapport à la conjecture économique en Chine ou l'environnement en Chine, etc., l'école en Chine, etc., plein de facteurs, on s'est dit qu'ils pensaient que c'était quand même plus intéressant d'aller à l'étranger, en Europe, en France, etc., et d'essayer là-bas. Donc en fait, on commençait notre vie entre guillemets un peu en Chine, et puis bah finalement on est revenu en France. Je crois qu'elle avait 4 mois. Elle était enceinte de 4 mois quand on est revenu en France. Donc on est revenu chez mes parents, et puis on a cherché un appartement. Et moi qui j'avais réussi à m'arranger en fait avec la boîte avec qui je travaillais à Shanghai. Pour travailler, continuer à travailler à distance. Mais du coup, j'étais en tant qu'auto-entrepreneur.
Ok.
Et trouver un logement en France en étant auto-entrepreneur, en montrant des fiches de paye en dollars et des trucs, des papiers chinois, etc., ça a été difficile de trouver un logement. Et ça a valu pas mal de prises de tête et pas mal de disputes aussi avec ma femme. Et
pourquoi vous disputiez?
Je pense qu'elle était stressée et que ça a pris du temps. pour trouver un appartement, du coup ça la stressait. Je pense qu'elle avait pas envie de se voir rester faire l'accouchement chez mes parents, etc. Je pense qu'elle voulait vraiment qu'on s'installe et qu'on fasse quelque chose et qu'on soit
compréhensible
dans notre dans notre milouillet, tu vois. Et c'était un peu difficile aussi de trouver quelque chose qui était dans notre budget, voilà aussi. Et puis à ce moment-là, en fait, on a cherché aussi dans plusieurs villes. C'est-à-dire que mes parents, ils sont dans les Vosges, donc c'est pas forcément un endroit très propice à quoi que ce soit, notamment dans mon métier. Du coup, on a cherché dans des villes un peu plus grandes. On était au début, on était allé chercher à Reims, à Strasbourg, etc. Et puis bon, ça rentrait pas dans mon budget. Donc on a cherché, puis finalement on est allé à Metz. C'était
okay.
Toujours dans la même région, mais qui était plus agréable, on va dire, et plus intéressante. Et puis finalement on s'est installé. On a réussi à trouver un propriétaire qui était assez cool, qui a accepté, bien qu'on était pile poil à la limite des 30% du budget par rapport au loyer, etc. On a un peu même négocié avec lui pour payer un peu moins, etc. Il a été super sympa. Par rapport aux garants aussi, etc. Ça s'est bien passé. Puis voilà, on a pu avoir cet appartement, on s'est installé tranquillement, et puis c'était bien, la vie à deux commençait, on va dire, avec un troisième bientôt.
Waouh. Et tu te souviens de l'accouchement?
Ouais. ouais, c'était funky, on va dire. Je crois qu'à 2h du matin, elle se lève et puis elle perd les os. Donc, on y va. Alors, on va à l'hôpital, on se prépare tranquillement. À ce moment-là, en plus, il y avait sa mère qui était venue de Chine pour nous aider. Elle avait pris elle avait obtenu un visa pour un bon mois, je crois. Donc, on y va tous les trois et puis on va à l'hôpital. Et puis, on arrive et puis on nous dit que, on va attendre un petit peu, on va monitorer, etc. Donc, on attend la nuit, elle dort. Le lendemain, toujours rien, y a pas trop de contractions, etc. Donc on attend. Et puis finalement ils disent le jour d'après, bon ok, on va déclencher le matin. Et puis le 14 février, oui c'est ça, en 2015, elle a été déclenchée et puis elle est sortie assez rapidement. Moi qui avais pas, comme je disais là, forcément le désir de paternité, ça. De le voir ma fille, ça m'a fait aussi un autre choc. Voilà, un autre choc qui s'accumule.
Ça t'a fait quoi comme choc?
C'était vraiment réel du coup. Je pense que pour moi, tant qu'elle était dans son ventre, ça restait quand même un peu moins réel pour moi. Moi qui sentais pas le bébé bouger, etc. Même si on peut voir, je pense, un peu le bébé qui bouge, etc. Là, c'était concret, quoi. J'avais le bébé devant moi et je me dis, ok. Maintenant, c'est la vie, c'est différent. Maintenant, on n'est plus que deux. On n'est plus deux, on est trois. Je pense que j'étais quand même content, mais stressé aussi. J'avoue que j'étais très stressé aussi à ce moment-là.
Stressé de quoi?
Pour être honnête, j'avais pas mal de pression. Du fait que sa mère soit là aussi. Et
ta belle-mère, tu veux dire.
Ouais. Je voulais bien faire, quoi. Je voulais être sûr que les choses se passent bien. Et c'est peut-être un peu bête, mais aussi toute cette histoire de baby moon, etc. Où, voilà, les femmes, comme je disais, sont chouchoutées pendant un mois. Je me suis dit, ok, va peut-être falloir que je mette la barre. Haut pour moi, pour lui, même si j'ai pas les moyens de lui offrir financièrement cette baby moon, de faire ce que je peux pour que ça se passe bien pendant un mois pour elle, quoi. Donc ce qu'elle disait, ma belle-mère ou ma femme, c'est que genre en Chine, quand l'enfant naît, les parents sont là, le mari est là, il s'en occupe. Donc en fait, moi, de ce que j'avais vu ou de ce que j'avais entendu, c'est plutôt un peu plus comment dire, on prend les choses un peu plus avec tranquillité, je dirais, ou peut-être l'homme, il va rentrer à la maison pour dormir, pour se reposer. Et dans l'esprit de ma femme ou de ma belle-mère, non, c'était pas comme ça. Donc j'ai dormi les 3 premiers jours à l'hôpital.
Okay.
Je suis pas rentré à la maison. Enfin, je suis rentré juste pour prendre une douche. C'était difficile, en fait. C'était fatigant. De rester tout le temps à l'hôpital dans la chambre.
T'avais un lit quand même ou tu dormais parce que c'est rare qu'il y ait des endroits avec des places pour les papas.
Non, il y avait juste une chaise semi-longue. Ouais, c'était chaud.
Ok. Pas cool, non, quoi.
Ouais, c'était fatigant. C'était fatigant, ouais.
Et t'osais pas dire, écoute, moi je dors pas bien, j'ai besoin d'aller dormir, de me reposer pour être mieux après, quoi. C'est dur pour toi.
J'ai négocié un peu, tu vois, mais je pense que dans son esprit, c'était pas comme ça. Voilà. Et elle voyait qu'en France, peut-être c'était comme ça, mais elle voyait pas c'est d'une bonne chose, d'un bon œil, on va dire.
Bah, j'imagine que si tu viens de la Baby Moon en Chine, tu te dis, oh! Moi aussi, je veux pareil, quoi.
C'est ça. Moi aussi, je veux en profiter, tu vois. Même si je suis en France, etc.
Et la découverte de ta fille?
La
rencontre, finalement.
C'était pas mal d'émotions. Je pense que comme j'étais à l'hôpital toute la première nuit par exemple, j'ai vraiment passé toute la nuit à la regarder, en fait. J'étais vraiment au-dessus du berceau à la regarder, elle dormait, sa mère, et la petite, j'ai regardé pendant jusqu'à 6h du matin, je crois, ou 7h du matin, et après j'ai tapé une sieste sur la chaise parce que j'en pouvais plus. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon esprit, je pense. Il y a eu il y a eu les premières inquiétudes, suite, on va dire. Au début, c'était des petits trucs. Quand elle est née, il y avait une espèce de bosse au niveau de son cou, près de la thyroïde. Ça, c'est pas forcément. Enfin, les médecins l'ont pas forcément remarqué tout de suite. Mais j'avais remarqué un peu, du coup, ça me trottait un peu dans la tête, même j'ai pas trop osé d'en parler. Et puis, les premiers jours, elle perdait du poids, en fait. Et elle n'arrivait pas à téter. Donc, tout de suite, on s'est dit, bah, ok, il y a un petit truc un peu différent, quand même. Et puis, on a dû la mettre biberon. Donc, elle a eu des biberons, je ne sais plus comment ça s'appelle, spécifiques, voilà, pour les nouveau-nés, comme les prématurés, j'imagine. Et puis finalement, au bout de 3 jours, elle a commencé à reprendre du poids. Et puis on est resté encore un jour ou deux de plus, je crois. Et puis comme elle prenait du poids grâce au biberon en bouteille, on a pu rentrer à la maison. Et puis je pense que ma femme était un peu déçue aussi de ça, du fait qu'elle n'arrive pas à téter, quoi. Elle a essayé plusieurs fois, etc., mais ça marchait pas. Elle n'arrivait pas. Elle n'avait pas assez de force, j'imagine, dans la mâchoire, etc. Et puis, à la maison, c'était très calme. Un bébé super calme, qui a fait ses nuits presque tout de suite. Et on était quasiment obligé de la réveiller, en fait, pour manger. Donc, on n'a pas vraiment connu le problème d'un enfant qui fait pas ses nuits, ou ce genre de choses. Même avec la deuxième, qui a fait ses nuits très rapidement. Donc,
pas mal.
Sur ça, c'était
pour moi, bien. Il y a deux teams, hein, tu vois, dans les parents. Les parents dont les enfants dorment et le reste...
C'est ça.
On se rend pas compte de la chance que c'est. Ok.
C'est ça.
Ok.
Et puis retour à la maison, c'était bien. J'ai pu me reposer aussi. Et puis
dormir dans un vrai lit.
C'est ça. Et Bah, au bout d'un moment, bah, belle-maman est repartie en Chine. Donc là, on s'est vraiment aussi retrouvés à deux. Donc là, c'était aussi la vie réelle qui commençait, on va dire. Il n'y avait plus personne qui nous aidait. Mais bon, bah, ça se passait bien. Lila, elle était très calme. Elle bougeait pas beaucoup, etc. Elle prenait le biberon, elle pleurait pas beaucoup. Et puis, je pense que c'est au bout d'un mois, avec le pédiatre, elle nous dit quand même, elle est un peu hypotonique. Donc, elle manque d'énergie, elle manque de vigueur. Elle dit OK. Et puis, elle a remarqué aussi, à ce moment-là, la bosse aussi dans son cou. Donc, elle a commencé à faire des séances de kiné, parce qu'ils ont pensé que c'était un torticolis congénital. Voilà.
OK.
Et qui est c'est peut-être le cas, j'avoue qu'on maintenant c'est passé, et peut-être c'est le cas. Vu qu'elle avait pas beaucoup de force, elle est hypotonique, peut-être qu'en sortant, elle a dû ça a dû pousser un peu, et puis elle a dû faire un tortille congénital, peut-être. Et du coup, elle a commencé donc à faire la kiné, et puis on a commencé un peu à se poser des questions, pourquoi elle était hypotonique. Puis on a cherché un peu, et puis on a trouvé des trucs. Donc, par exemple, elle manquait de quoi? De TSH ou TS4. C'est une protéine, je crois, qui est produite par la thyroïde. Soit par la thyroïde ou soit par l'amygdale, je crois, dans le cerveau.
OK.
Et qui permet d'avoir du tonus, en fait. Tonus musculaire. Et du coup, elle manquait ça. Et du coup, il y a des médicaments à prendre. Donc on a commencé à prendre des médicaments pour que ça ajuste son taux de TSH dans son sang. Donc on a dû commencer à faire des prises de sang assez régulières. Prendre ces médicaments qui n'étaient pas forcément bons, j'imagine. Ça sentait pas très bon. Mais bon, ça, dans le biberon, avec le biberon, je pense que ça passait pour elle. À force qu'elle grandisse, on a commencé à voir que il y avait vraiment un retard de développement. C'est-à-dire que quand tu vois avec tes amis ou d'autres enfants au même âge, ils savent se mettre assis, et ils savent lever la tête, tenir la tête correctement. Ça, non, elle savait pas. Elle était toujours en retard. Donc, par exemple, pour juste lever la tête en étant sur le ventre, ça a pris beaucoup de temps. Après, pour être assise correctement, ça a pris beaucoup de temps. Et à chaque fois, on se disait, OK, c'est peut-être juste un peu de retard. On savait pas trop, quoi. Donc, on était dans le flou. Et on a continué les examens. On a fait, je sais plus tous les examens qu'on a fait. On en a fait beaucoup. Des examens génétiques, qui avaient rien donné, à l'époque.
Ah, OK.
Ouais.
Une batterie d'examens. Ouais, t'as dit tout à l'heure que ta fille avait une mutation, avait une maladie génétique, mais c'est vraiment très rare, c'est ça?
Ouais.
Tu disais dans le mail que moins de 200 cas connus dans le monde, donc c'est vraiment spécifique, quoi.
Ouais, c'est très très spécifique. Et avec toutes ces questions qui se posaient, il commençait un peu à avoir aussi des, je dirais pas des tensions, mais à dire des interrogations aussi du genre. Est-ce que c'est un truc héréditaire? Est-ce que, entre guillemets, c'est ta faute? Est-ce que c'est ma faute? Il y avait peut-être un petit sentiment de culpabilité qui poussait. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on on fait le maximum pour elle? Est-ce qu'on on peut pas l'aider mieux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et
tu te sentais coupable?
Un petit peu, peut-être, je sais pas, peut-être. On savait pas. J'avais regardé, j'avais reparlé un peu avec ma mère, où j'avais repensé un peu à tous les problèmes qu'il y avait eu dans la famille. J'avais fait un peu des recherches, etc., par rapport à la génétique. Il y avait rien de concluant de mon côté, donc je me disais peut-être, mais il y a rien qui vient de mon côté, entre guillemets, et pareil de ma femme, donc je voyais. Pour moi, c'était pas un truc héréditaire. Donc j'essayais de rester rationnel. par rapport à ce qu'on avait, quoi, ce qu'on savait. Et...
C'est important, hein, je crois, l'air de rien, de
ne ouais.
de pas commencer à se faire des tas de scénarios, d'aller chercher des coupables, etc. Enfin, tu dis ça comme si de rien n'était, mais à mon avis, c'est vraiment un... Je sais pas si c'est simple à tenir comme cap, mais c'est hyper important, je trouve, de réussir à le tenir, quoi.
Ouais. Ça, ouais. Et on a vécu les choses, je pense, aussi différemment. Je peux pas vraiment dire des choses à la place de ma femme, mais bon, on a des manières de penser différentes, je dirais.
Et tu crois que c'est culturel aussi, d'un certain aspect, ouais.
Ouais. Et je pense que aussi du côté de sa famille aussi, etc., il comprenait pas trop. Nous aussi, on comprenait pas trop, mais je pense que ça lui mettait plus de pression aussi de voir que sa famille elle lui posait des questions et elle savait pas elle répondre. Donc ça lui mettait la pression. Et puis bah nous, on s'est mariés en France, en fait. On avait fait un petit truc, un petit comité. Et puis bah on avait décidé de faire un mariage aussi en Chine. Pour un truc un peu plus grand, on va dire, pour faire plaisir aussi un peu à sa famille et puis à elle, etc. Et bah du coup, à peu près qu'elle avait un an, Lila, on est allé en Chine pour les vacances entre guillemets, et puis pour se marier, pour faire une
fête.
Voilà, une fête de mariage. Donc on est allé là-bas, on a fait le truc de mariage et puis bah on en a profité pour aller à la grande ville, à Shanghai. Et voir quelques hôpitaux et amener Lila à faire quelques examens. Et tout de suite, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile, en fait, l'accès à la médecine là-bas. Parce que, par exemple, une IRM, on voulait la faire en France, mais c'était impossible d'avoir un rendez-vous d'ici un an, etc.
Ah ouais.
Et du coup, en Chine, on est allé et voilà, la journée même, on la faisait. On s'est dit, ok, ah ouais, tu veux un truc en Chine, t'es capable de le payer, tu l'as dans la journée, quoi. Du coup, c'est nous qui étions complètement dans le flou et qu'on souhaitait avoir plus d'informations, on souhaitait vraiment faire le maximum pour qu'elle rattrape son retard. On se disait qu'elle était capable de peut-être éventuellement rattraper son retard, donc on voulait vraiment y aller à fond. Et bon, on a discuté. Et on en a reparlé avec sa famille, etc. Et puis on s'est dit, bah ok, on va revenir en Chine. Et en fait, pour éviter de se compliquer les choses aussi, on a laissé Lila en Chine et on est rentré en France à deux. Donc on est rentré en France. mes parents ont fait une drôle de tête de ne pas voir la petite. Et on a dû leur expliquer qu'on a choisi de retourner en Chine. On a dû s'arranger avec notre propriétaire qui a été sympa aussi pour pouvoir partir rapidement. On a dû tout déménager en un mois. On a un peu revécu une vie de couple. C'était sympa, on va dire, à deux. Ça a été sympa sur ce point-là, mais je pense qu'on était aussi tous les deux, on va dire, inquiets en un sens ou aussi un peu coupables d'avoir laissé notre fille seule, on va dire, entre guillemets seule. Elle était avec sa belle famille. Donc ça, c'est pas... Il s'occupait bien d'elle, donc c'était pas vraiment un problème. Mais on était un peu coupable, je pense, aussi. Moi, je me sentais aussi un peu coupable, on va dire.
Mais c'était... Mais bon, c'était objectivement, c'était la meilleure solution de la laisser là-bas pour faire en sorte de préparer le déménagement et tout. Si vous aviez cette solution-là, ça aurait été dommage de pas...
Ouais, avec le décalage horaire, etc. Le bébé dans l'avion, etc. C'était... On s'est dit, c'est trop compliqué de rentrer juste pour 30 jours et de la remettre dans un avion encore une fois pour se retaper le décalage horaire, etc. Donc, on a fait ça. On est revenu en Chine. Là, on a commencé des thérapies. Donc, dans une un des plus grands hôpitaux pédiatriques de Shanghai. Tous les jours, ma femme ou moi, quand j'avais le temps, que je continuais à travailler. Du coup, j'avais repris mon poste dans la boîte où je travaillais en présentiel. Et tous les jours, voilà, à l'hôpital pour faire des thérapies, donc du genre de la kiné, de la rééducation, de l'ergothérapie, orthophonie et tout ça, quoi.
Mais à l'époque, vous saviez toujours pas d'où ça venait. C'est-à-dire que vous aviez pas la cause.
Non, on était Incroyable. Toujours dans le flou et on savait toujours pas de quoi elle est capable. Voilà. Mmh. Et si tout ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de le faire? On était, mais on s'est dit, il faut le faire. Il faut essayer de tenter l'aventure, de venir en Chine, de faire des thérapies, etc. Donc, tout de suite, il y a que moi qui, enfin, on s'est arrangé aussi entre guillemets, on s'est mis d'accord que ce serait moi qui travaillerais et qui qui soutiendrait le foyer, on va dire, de manière financière, que j'avais plus d'opportunités qu'elle. Enfin, en tant qu'étranger, c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir un poste mieux payé qu'un Chinois. Donc elle a mis sa carrière de côté, et puis, voilà, comme je disais, tous les jours, elle s'occupait de Lila. Elle s'en occupe toujours. Et donc, on a fait ça pendant 2-3 ans à Shanghai. Sans toujours savoir c'est quoi le où est-ce que ça va nous mener, en essayant plein de thérapeutes, non, thérapistes, comment dire en français,
de docteurs, en fait, d'une manière générale, enfin c'est
ouais, oui. des praticiens différents, ouais. Plein de choses différentes, la belle famille un peu penchée dans la médecine traditionnelle aussi, il y a eu l'acupuncture. Moi, moi qui suis rationnel, j'étais pas très fan de l'idée. J'ai dû accepter, me contraindre, on va dire, à la tradition, on va dire.
Ouais, pour le coup, t'es en plein dans la culture, quoi. Donc, forcément.
Voilà. Donc, c'était. C'était pas un truc que j'aimais, en tout cas, accompagner Lila là-bas.
Se faire piquer, tu veux dire?
Voilà.
Parce qu'au-delà de l'acupuncture, j'imagine que c'était plutôt de venir mettre des aiguilles dans le corps de ta fille, c'est ça qui te, qui te dérangeait.
Ouais. Et surtout que elle pleurait, quoi. Et moi qui suis, je répète, rationnel et qui vois qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'acupuncture, je dis ok, c'est difficile d'expliquer ça, de faire changer les esprits, les avis, etc. Donc, voilà. Malheureusement, je sais pas. On a fait ça un petit peu.
Ouais.
Elle a fait aussi pas mal de massages chinois traditionnels, ce genre de choses. Ou pareil, elle pleure et c'est des trucs un peu. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt aussi, mais on a essayé plein de choses. Et
ça n'a pas été simple, en tout cas, j'ai l'impression, ce parcours médical là, pendant ces 3-4 ans. Là.
Non, il y a eu, quelques disputes. Ouais, sur ce genre de choses où. Voilà, sur les trucs un peu traditionnels, un peu new age, je j'aimais pas trop. Donc, Et puis, il y a eu. C'était difficile quand même d'y aller tous les jours. Donc des fois, moi aussi, je faisais l'effort aussi quand s'il y avait des jours où je pouvais y aller, accompagner ma fille à l'hôpital, c'est moi qui l'amenais. Je parle très mal chinois aussi, donc c'était difficile d'aller voir les praticiens et de discuter avec eux et de comprendre les choses qu'ils voulaient te montrer ou t'expliquer. Et du coup, ça aussi, ça a été un truc qui a gêné ma femme, c'est que moi, si c'est moi qui allais, j'allais pas comprendre forcément qu'est-ce qu'elle allait expliquer, et j'allais pas être capable de lui répéter ou de refaire à la maison.
Vous parlez en anglais avec ta femme, c'est ça?
On parle français.
Ah, ok.
Ouais, elle parle super bien français, donc c'est aussi c'est un avantage pour elle, mais pas pour moi, on va dire.
C'est que, du coup, t'as pas voulu t'y mettre?
Je suis dans la facilité. Ouais. C'est difficile de s'y mettre. C'est une
ça, j'imagine.
Ouais, c'est difficile. Et du coup, à un moment, sa mère, elle avait des relations de business avec des gens un peu partout en Chine. Et il y a quelqu'un qui, je connais pas tous les détails, mais quelqu'un qui lui a dit, elle a parlé de sa sa petite fille, elle a quelqu'un qui lui a mentionné un hôpital, une nouvelle clinique, dans le nord de la Chine, dans une autre province, dans une ville pas très connue, mais une grosse ville quand même. Et ma belle-mère en a reparlé avec sa fille, etc. Et puis elle l'a convaincue d'essayer. Et après, ma femme est venue me voir et elle m'en a parlé. Et moi, tout de suite, j'ai explosé. Je dis, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu veux aller là-bas, c'est super loin, etc. Et en fait, j'étais toujours dans l'esprit que c'était genre une médecine traditionnelle, ce genre de choses, et je me suis dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Et j'ai explosé à ce moment-là. Et finalement, j'ai dit, ok, on va essayer. Et on est parti en voiture, 9 heures de route, avec pas mal de... des bonnes valises, un enfant, moi, ma femme, mon beau-père. Et on est arrivé là-bas, et puis on est arrivé par un coin de la ville où c'était tout pourri, je sais pas comment dire. Ouais. Tout de suite, on a une mauvaise image de la ville en arrivant. On est arrivé par le pire quartier, je crois. Et puis finalement, on a rencontré les gens de la clinique, etc. Et puis on a dit, ok, on va vous voir. Et puis on est allé à la clinique. Et puis finalement, après un ou deux jours même, je crois, on a même dîné avec les gérants de la clinique, etc. Et je crois que c'était des élus locaux aussi de la ville. Et puis, on s'est dit que quand même, c'était pas mal au niveau de la qualité des soins, dans leur ce qu'ils avaient en termes de moyens financiers, de capacités et l'endroit, etc. C'était un peu étonnant. Et le gérant avait aussi pas mal d'ambition pour en faire vraiment un pôle national, je dirais, de rééducation pour tous les enfants spéciaux. Okay. Et il y avait des lits, donc il y avait de la spécialisation, il y avait des enfants qui étaient là tout le temps, qui vivaient là-bas. Et nous, elle vivait pas là-bas, on nous avait prêté un appartement à quelqu'un, une connaissance de sa belle-mère. Et en fait, voilà, on est allé là-bas pour essayer. Ma femme est restée là-bas, en fait. Ma femme et ma fille sont restées là-bas. Moi, au bout d'une semaine, je suis rentré à Shanghai tout seul. Et puis, on a commencé comme ça. Moi, j'étais à distance, en fait. Je passais peut-être une semaine à Shanghai ou deux semaines à Shanghai, et puis je venais le week-end. Et puis elle, au lieu d'aller tous les jours en thérapie à Shanghai, elle allait tous les jours en thérapie dans la petite ville. Mmh. Et puis au bout d'un moment, il y a eu... elle a voulu refaire des tests. Alors ça se passait bien, on va dire. Puis c'était un peu fatigant quand même de faire les trajets. En plus, je sais pas...
600 bornes, tu dis, c'est ça?
Ouais, je faisais les trajets en avion en plus. Ouais. Donc... mini culpabilité par rapport à l'empreinte carbone, mais on va dire, je me disais, ok, bon, c'est pour ma fille, donc c'est pas très grave. Enfin, faut que je le fasse. Mm. Et puis, dès que je pouvais, j'essayais de venir plus, et j'ai négocié de plus en plus de temps pour travailler à distance. Et puis, on vivait dans un petit appartement qui était petit, très petit, je dirais. Mm. Ah tiens, j'ai oublié qu'il y avait mon deuxième enfant qui était né aussi.
Ouais, j'allais dire à un moment donné,
ouais.
Vous avez fait un petit deuxième, non?
Ouais, et ouais, qui était né à Shanghai.
Incroyable.
Donc ouais, comme j'expliquais au début.
C'est fou quand même, parce que ça veut dire j'ai l'impression j'ai l'impression que vous étiez un peu dans un no man's land de... médical, en fait, vous saviez pas trop ce qui allait. Enfin, voilà pourquoi votre fille aînée était dans cet état-là, etc.
Ouais.
Vous êtes dit, ok, let's go, faisons-en un petit deuxième, quoi. Pas mal.
Ouais, c'est. c'est vraiment une. Je sais pas. J'arrive pas à me souvenir, en fait.
Ok.
J'arrive pas à me souvenir pourquoi on s'est dit ok, on a un deuxième enfant, on le garde, on sait qu'il y a un risque potentiel parce qu'on sait pas Même. J'ai essayé d'être rationnel et je me suis dit, statistiquement, c'est rare deux familles qui ont deux enfants, etc. Et qui ont deux enfants avec des problèmes. Donc, je sais pas, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, mais c'est vrai que, quand même, le jour de sa naissance, j'étais stressé de ma deuxième fille. Et la première chose que j'ai regardée, c'est si elle avait pas ses petites bosses dans le cou. Et si elle avait l'air normale, si elle pleurait bien, si elle n'était pas hypotonique, etc. Et non, et puis bah, la tétée, etc. Donc ça nous a rassurés tous. Et puis bah, on s'est dit, voilà, ok. Mais ouais, pour à un moment, on voulait en faire trois, on voulait avoir trois enfants. On s'est dit que ouais, le troisième... Enfin, pour la deuxième, on n'a pas eu de problème. Pour le troisième, on s'est dit, ok, non. Ouais. Ça nous a mis un frein quand même. On s'est dit, on a joué quitte ou double sur la deuxième. On ne va pas trop le retenter pour le troisième. Mmh. Ouais. Et puis, bah, ouais, finalement, un jour, on a refait des examens. Et puis, ma femme a dit, ok, on va refaire relancer une mise à jour des tests génétiques. Parce qu'ils gardent. Les échantillons de sanguin et ils peuvent refaire des tests, etc. et relancer tout. Et puis elle a fait ça. Et puis bah, on a appris qu'en fait elle avait un truc qui était connu bah, depuis 2016 en fait. Et donc il y a un truc qui a été.
Un an après sa naissance, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et en fait, au moment où nous on a fait les premiers tests génétiques en France, bah, c'était genre pile poil avant que ce soit publié. Soit connu. Donc en fait, si on avait genre juste attendu un peu, on aurait pu avoir les informations plus tôt, peut-être, je sais pas. Ou si on avait relancé l'update, la mise à jour des recherches génétiques plus tôt, on aurait pu avoir l'information plus tôt. Donc je sais pas. Peut-être un conseil aux autres parents, n'hésitez pas à relancer, refaire une mise à jour de vos tests génétiques. Parce que ça change, enfin, y a des résultats tous les jours, quoi. Ça progresse à une vitesse de folie, surtout ces derniers temps. Et du coup, bah voilà, on apprend qu'elle a une mutation sur le gène HNRNPH2. Donc c'est un truc que je retiens tout de suite, bizarrement, HNRNPH2. Et sur le papier, qui est écrit, où tout est écrit en chinois, sauf le deux lignes, on voit juste bah, syndrome Bain qui cause des retards de développement, hypotonie, genre de choses. Et je commence à faire des recherches sur internet parce que bah, on sait qu'elle a ces trucs, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi et ça veut dire quoi de plus, quoi. Et en fait, je tombe sur le site du hnrnph2.org, je crois. Et je vois qu'il y a des gens qui se sont organisés, en fait, et qui ont des enfants qui ont la même mutation, et qui se sont organisés, et qui travaillent avec des chercheurs, dont notamment Dr. Bain, qui est à l'initiative de la recherche sur cette mutation précise, et qui a donné, du coup, son nom au syndrome. Et puis, bah, tout de suite, on voit que c'est lié à l'université spécifique aux États-Unis. Donc, j'envoie un mail, je dis bonjour, notre fille a ça, etc. Et puis, bah, on rentre en contact avec elle. On lui parle, etc. Et puis, bah, elle nous dit, ok, bah, si vous voulez, il y a une association qui s'appelle Yellow Brick Road. Je crois que c'est une référence au Magicien d'Oz. Il y a un chemin... jaune en brique, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est le chemin que Dorothy, elle est voilà. Censée suivre, je crois.
Ouais. Et du coup, voilà, c'est genre le chemin de l'espoir, ce genre de choses qu'ils ont. Mmh. Voilà, c'est ça l'image. Et qui participe à la gestion de la communauté, etc. Et à toutes les parents. Et puis elle nous dit que, bah, en fait, au moment où on la rencontre, il y a à peu près je crois 80 patients dans le monde connus. Et puis, bah voilà, on commence à rentrer dans ce groupe. Il y a des groupes Facebook, etc. On parle un peu avec les gens. Et puis, bah, on voit que déjà, un des premiers trucs qui, moi, me rassure, c'est qu'on voit qu'il y a, moi, personnellement, j'ai vu qu'il y a une des autres filles du groupe, elle a 40 ans. Donc déjà, personnellement, je me dis, ok, ça me soulage un peu, je me dis que ma fille aura une certaine espérance de vie. Je me dis, ok, ça m'enlève un peu une épine du pied, je dirais. Et après, on voit les autres enfants et on apprend un peu plus sur la maladie et on voit que, même à 40 ans, elle est pas trop capable, elle a pas d'autonomie. Elle vit toujours avec ses parents. Les gens qui ont cette mutation, ils sont pas forcément capables d'aller aux toilettes, par exemple, tout seul. Il faut toujours porter, notre fille porte des couches ou des pads, je sais pas comment on dit en français. Des serviettes, voilà. Ils sont pas forcément très verbaux, ils savent pas forcément très bien parler. Il y a quelques enfants qui savent parler. Ça dépend des mutations, c'est un peu différent. Il y a des mutations sur le gène, je suis pas généticien, mais sur le gène, apparemment, il y a plusieurs protéines ou ce genre de choses. Et selon la protéine, si elle est dans le... comment ça s'appelle ? Dans le cœur de la cellule ou pas, le syndrome est un peu différent. Donc il y a des enfants qui sont très touchés par la mutation, il y en a qui le sont moins. Notre fille, elle est un peu entre les deux, je dirais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, on voit que elle sera pas autonome et qu'elle sera toujours avec nous, en gros, qu'il faudra toujours s'occuper d'elle. Que peut-être elle pourra parler. Peut-être elle pourra marcher par elle-même. Qu'il faudra l'aider pour le manger éventuellement. Mais au moins, on se dit que elle va continuer à progresser. Elle va pas juste rester trop hypotonique. Elle va peut-être parler. Elle va peut-être développer des choses. Et on se dit que elle aura quand même une espérance de vie qui a l'air d'être normale. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres patients de plus de 40 ans. Donc, 40 ans, c'est déjà bien, je dirais. Donc, tout de suite, on voit que, on a fait le maximum pour elle. On a passé vraiment beaucoup de temps à l'accompagner, à déménager, à aller ici, ça, etc. Au final, peut-être que ça n'a pas forcément aidé à grand-chose, mais on sait que maintenant, on doit juste l'accompagner. On doit continuer à toujours à lui faire des thérapies, etc. Elle va toujours faire en thérapie. Mais on en fait beaucoup moins. Avant, elle passait vraiment des journées entières là-bas. Maintenant, elle y va tous les matins. Et c'est des trucs... on en fait un peu moins qu'avant. Voilà, je sais pas.
Pourquoi t'envoies ce mail aujourd'hui, Sony, plutôt qu'il y a 4 ans ?
Pour deux choses, je dirais peut-être. Premièrement, c'est que j'avais envie un peu de partager notre aventure, on va dire, dans le sens où je pense que quand on est vraiment dans le flou, on sait pas où mettre la barre pour notre enfant. Et maintenant qu'on n'est plus dans le flou, on sait qu'on peut mettre la barre à un certain endroit et qu'on peut ajuster la vie de tout le monde. Pendant beaucoup d'années, on a fait beaucoup de sacrifices, surtout ma femme. Et je pense que maintenant qu'on sait à quoi vraiment s'attendre et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses se passent au mieux, on a ajusté la barre. Donc maintenant ma femme n'a pas encore repris un emploi, mais On espère toujours qu'à un moment, elle soit capable de reprendre un emploi. On a ajusté nos priorités, par exemple. On a déménagé du nord de la Chine, maintenant on est dans le sud. On est venu pour notre deuxième enfant. On a décidé de faire ce choix d'investir maintenant, de s'investir dans notre deuxième enfant, pour pas qu'elle soit lésée aussi. Mmh. Et on est venu voilà, pour qu'elle soit dans une bonne école, elle est dans une école française, en fait, à Canton. Ouais, je voulais partager ça parce que je me souviens qu'en France, pas mal des praticiens, des fois, qu'on avait connus en France, ils nous parlaient d'autres parents qui connaissaient, qui avaient des enfants qui avaient des problèmes. Et je me souviens que souvent, ils disaient, bah, des fois, il vaut mieux juste laisser tomber, on va dire, de savoir. Et ça m'avait un peu, j'avais un peu en travers de la gorge, ce truc. Mmh. Moi, j'avais envie de savoir, en fait. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent voir les choses différemment. Peut-être qu'ils peuvent avoir envie de laisser tomber, ne pas savoir. Mais moi, je trouve que savoir, ça nous a quand même aidé à réajuster les choses. Et voilà, plus s'adapter pour tout le monde. Voilà, pas juste pour notre enfant, pour que tout le monde ait sa part du gâteau, entre guillemets, je sais pas comment dire. Mais, ouais.
Et tu disais qu'il y avait une deuxième raison pour laquelle tu voulais partager aussi?
C'est que, comme je disais, les choses vont vite en génétique, et sur sa mutation précise, il y a, comment ça s'appelle? Il va y avoir des essais cliniques qui vont commencer cette année. Sur un médicament génétique. Il y aura un seul patient qui va commencer ça dans les mois qui arrivent. Donc, voilà. Il y a d'autres cas en France, il y a d'autres familles en France j'avais un peu envie de donner le message. Je sais pas si jamais il y a d'autres gens qui t'écoutent qui ont un enfant qui a le même syndrome que le mien, HNRNPH2, il y a des essais cliniques qui commencent. On sait pas, hein. Ce sera quoi les résultats, mais je veux dire, il y a une espèce d'espoir aussi.
Ça vous a fait du bien de retrouver cette base-là de parents de pouvoir partager, voir aussi qu'il y avait... Parce que pour moi, c'était... aussi peut-être l'un des trucs que tu cherchais toi, c'était, ok, des retours d'expérience finalement, de gens qui sont peut-être plus loin, entre guillemets, que vous, vous en êtes aujourd'hui, quoi.
Ouais. Ça, c'est... Ça réconforte un peu. Même si, pour l'instant, tous les parents, j'en ai rencontré aucun, physiquement, je dirais. C'est que des discussions sur Facebook. Après, tous les ans, il y a des conférences. Pendant le Covid, il y avait des conférences en ligne. Donc là, on s'était un peu vu en ligne, on va dire. Mais là, il y a des conférences aussi qu'ils organisent tous les ans. Il y en a une aux États-Unis et il y en a une en France depuis l'année dernière. Donc là, je considère, je suis en train d'y réfléchir à y aller, à y aller cette année. Même si c'est compliqué. Je pense de voyager avec un enfant spécial. Donc, ouais, j'aurais posé des questions par rapport à ça, par exemple. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion avec un enfant pendant 12 heures? Comment il gère le décalage horaire, etc. Et ça a l'air un peu compliqué, le décalage horaire. Ouais, ils m'ont conseillé d'y aller à la cool. Quand t'arrives en France, vas-y. Reste à l'hôtel. Peut-être tu vas devoir te coucher tôt. Pour qu'elle mette un peu de temps à s'adapter à la changement d'heure. Donc, ouais. Ouais, on va voir, j'y réfléchis.
Comment ta petite deuxième vit cette situation
Pour l'instant, je pense que ça va.
Parce que là, elle a 6 ans. Hein.
Ouais. Je pense que elle est née avec sa sœur à côté d'elle, donc pour elle c'est normal. Mais après, j'avoue que la elle a pas forcément trop de lien avec sa sœur, je trouve. De lien d'incointance, je sais pas trop comment dire. Parce que sa sœur, elle lui répond pas trop, quoi. Sa sœur, elle parle pas, elle bouge pas trop, mais elle est quand même souriante, elle rit, etc. Mais elle joue pas trop, quoi. Elle joue pas avec elle, elle a un peu un comportement un peu autistique. C'est-à-dire aussi, si tu lui donnes un jouet qui fait du bruit et des lumières, elle peut passer l'après-midi dessus. Donc c'est un peu... c'est un peu difficile, ouais, pour la petite, d'avoir vraiment, je pense, des liens affectifs avec elle. Même si je pense qu'elle est quand même attachée à elle, parce que elle est là. Serait-ce qu'elle est là, quoi. Et puis, elles dorment ensemble. Depuis toujours, elles dorment ensemble. Donc, c'est peut-être un peu son doudou aussi pour dormir. Elle peut pas dormir seule. Donc, elle dort avec sa sœur. Et même si elle le dit pas, elle lui fait des câlins dans la nuit. Donc, quand je lui dis « Non, t'as fait des câlins à ta sœur cette nuit ?»« Non, non, j'ai pas fait ça. »« Si, si, j'ai vu, j'ai une photo, tiens, regarde. »« Non, c'est pas moi. » Mais ouais, c'est... Après, j'avais une crainte aussi, c'est qu'elle en ait honte. Surtout que maintenant, elle commence à être scolarisée, etc. Et que, bah, des fois, sa sœur, elle sort quand même. On l'amène, etc. Et puis, elle peut voir ses copines, etc. Mais elle a jamais eu j'ai jamais trouvé qu'elle avait honte. Et même, elle était plutôt au contraire, elle était proactive, dans le sens où elle présentait sa sœur. Elle disait « Ah, regarde, c'est ma sœur. Elle s'appelle Lila, etc. C'est ma sœur. » Donc, sur ça, je suis content, on va dire.
Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Sony, dont tu aurais aimé parler?
Autre question. Je pense que je peux aussi peut-être juste recommander à tous les parents, si éventuellement ils connaissent pas les écoles françaises. Parce que je trouve que c'est un peu une exception française quand t'es à l'étranger, de pouvoir amener ton enfant dans une école française. Notamment là en Chine, c'est franchement c'est parfait, parce que c'est vraiment une petite école. Elle est dans une classe où ils sont 15 en CP, et c'est vraiment à l'ambiance un peu française, comme dans un petit village, etc., comparé à grosses écoles chinoises où ils travaillent comme des fous, ils finissent à 20h le soir, ils ont beaucoup de devoirs, et là c'est bien. Donc ouais, si jamais vous êtes à l'étranger et vous allez avoir un enfant, regardez les écoles françaises dans le coin. Il y en a partout dans le monde, et ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres pays qui fait ça de manière publique. Parce que reste des institutions publiques. Mais après les écoles. Ouais, après il y a quand même un certain coût. C'est-à-dire qu'il y a, en termes de gestion, il y a quand même une entreprise locale qui gère l'école locale. Donc c'est pas gratuit comme l'école en France.
Ouais.
Mais on a le droit aux bourses. Donc sur ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup.
Ok. Tu connais la dernière question si tu écoutes le podcast?
J'ai oublié.
C'est pas une question piège. si tes filles entendent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Si Lila, elle entend le podcast, et si elle est capable de le comprendre, s'il y a eu un médicament qui magiquement a soigné sa capacité d'apprendre, J'aurais juste envie de lui dire, bah, on a fait tout ce qu'on a pu pour toi et on sera toujours là tant qu'on peut. Et Elona, ma deuxième, juste lui dire qu'elle se prenne pas la tête avec sa sœur, dans le sens où voilà, c'est pas à elle de s'occuper de sa sœur, c'est à nous. On n'a pas conçu Elona pour nous aider à pour être une aide pour s'occuper de sa sœur.
T'as l'impression qu'elle prend un peu ce rôle-là parfois?
Non, ça va. Et justement, c'est bien. C'est bien. Je veux pas lui donner ce fardeau. Donc j'espère j'espère que t'es fier de ta sœur quand même. Et que ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit dans la vie. Voilà.
Ça a pas l'air d'être. T'as pas l'air d'avoir une histoire de daron très simple, Sony.
Je sais pas, à partir du moment où.
Franchement, il y a zéro histoire de daron très simple.
Ouais, quand on écoute le podcast, on se rend compte.
Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'ai eu 4 mecs peut-être en 7 ans où je me disais, ça a l'air d'être super simple pour toi. Waouh.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris tout au long de ce parcours sur toi?
Sur moi? Que j'étais capable de changer, je pense. Je sais pas, par exemple, avant je faisais pas du tout de sport et maintenant je fais du sport et je fais en partie pour Lila parce que elle aura besoin d'aide dans tous les cas pour l'aider à aller aux toilettes, pour l'aider à prendre la douche, pour la porter éventuellement si elle tombe ou même juste pour la soutenir. Donc il faut une force physique. Donc c'est un truc sur lequel j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que j'ai appris que... Il faut être patient aussi. On est quand on voit les news par rapport au programme génétique, etc., aux médicaments génétiques, etc., on se dit qu'il y a peut-être quand même des trucs qui vont se passer, qui vont être peut-être bien. Ouais, qui vont peut-être aider Lila et qui vont peut-être aussi nous soulager aussi. J'irais de manière, voilà, même si c'est un peu égoïste de le dire, mais. Donc, être patient, être résilient.
T'étais moins patient avant?
Je suis pas très patient, ça dépend, ouais. Par exemple, avec Lila, je suis très patient, oui. Mais avec Elona, ma deuxième, je suis moins patient. même si je suis patient, ça dépend, voilà. Je m'adapte, on va dire, j'ai un comportement différent envers mes deux enfants. Ouais.
Qu'est-ce qui te vient là? J'ai l'impression que t'étais parti dans tes pensées.
Ouais, je pense à ma femme. Parce que ça n'a pas été simple aussi, je pense, pour elle. Je pense qu'elle a eu peur aussi. Parce que, je sais pas c'est comment ailleurs, mais en tout cas en Chine, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés de couples qui étaient dans le même cas. Parce que c'est difficile de s'occuper d'un enfant comme ça. Et je pense que ça lui faisait peur. Et maintenant, ça fait 11 ans, on est ensemble et on tient le coup. On est toujours chaud pour continuer. Mmh. On s'accroche toujours avec Lila, avec les deux enfants. Comme je disais, on a un peu réorganisé les priorités pour tout à chacun. Et puis, apprendre peut-être à aussi, pas à ajuster les choses pour tout le monde. C'est ça, ouais. Pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mmh.
Merci, Sony.
Merci à toi.
Pour ton partage et pour ton témoignage. C'était vraiment très chouette. Donc, je te dis pas au revoir, c'est ça?
Non, juste disparaît comme ça.
Merci bien.
T'es là, Ninja.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.